petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Nous fêtons cette année, et même ce mois-ci, le tricentenaire de la naissance d'Emmanuel Kant, né le 22 avril 1724 et mort en 1804. Ce grand philosophe allemand s'est rendu célèbre par de multiples raisons, et en particulier pour avoir réussi à concilier la liberté de la conscience et le déterminisme nécessaire à la science moderne. Or, liberté et sciences mathématiques, sciences et techniques mathématiques, sont les deux principaux piliers de la civilisation occidentale, inaugurée, peut-on dire, par Descartes au siècle précédent, c'est-à-dire le XVIIe. Ce Descartes, philosophe du libre arbitre, donc de la liberté, et promoteur des sciences et techniques pour, dit-il, se rendre maître et possesseur de la nature. Cette culture occidentale qui prend son essor au XVIIIe siècle est cependant, dès ce même XVIIIe siècle, menacée d'une grave contradiction. En effet, de deux choses l'une. Ou bien le déterminisme selon lequel tout phénomène a une cause et par lequel les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Ce déterminisme, donc, est le fondement de toute explication scientifique. Mais, dès lors, la conscience ne peut pas faire exception. Et donc, la liberté n'existe pas. La conscience, comme tout autre phénomène, n'est que la résultante de diverses causes qui s'imposent à elle, le cerveau, l'hérédité, l'éducation, les instincts, ou alors, la conscience est libre. Mais alors, comment peut-elle être une réalité sans cause? Comment ça peut exister, ça? Le génie de Kant est de prendre conscience que le principe de causalité, c'est-à-dire le déterminisme, ne provient pas tant d'un constat d'enchaînement des faits dans la nature. Par exemple, l'eau bout parce que la casserole est chauffée par le feu. Le déterminisme, lui, ne provient pas d'une constatation de ce genre, mais d'une exigence a priori de la conscience, qui ne peut pas, et c'est là qu'il faut bien comprendre, la conscience qui ne peut pas faire autrement que comprendre le monde par l'enchaînement de cause à effet. La conscience ne comprend le monde qu'à travers ses lunettes du principe de causalité. Du coup, la conscience qui est source de la causalité, exigence de causalité universelle, n'est pas objet de cette causalité. Elle en est le sujet. La conscience peut être libre, être une réalité sans cause. Réalité sans cause, sinon, ce ne serait pas la liberté. Elle serait causée par quelque chose, donc non libre. Réalité, réalité qui projette le principe de causalité dans sa façon de comprendre le monde. Alors, c'est une idée surprenante, hein. La causalité n'est pas dans les faits objectifs, elle est une exigence de la conscience. Comment le dire simplement? Le principe de causalité, c'est-à-dire le déterminisme, si nécessaire à la science, n'est pas une chose, n'est pas un fait objectif. Il est une condition de la compréhension du monde par la conscience. Le principe de causalité est subjectif, mais attention, ça n'en fait pas un principe facultatif ou aléatoire. C'est au contraire un principe nécessaire et universel créé par la conscience. On ne doit pas dire que la conscience est soumise à ce principe de causalité qui s'imposerait à elle. Non, la conscience est elle-même ce principe. La morale du bien et du mal est tout autant l'expression de la liberté de la conscience. De même que le principe de causalité provient de l'exigence de nécessité et d'universalité de la conscience, de même je dois agir conformément à cette exigence de nécessité et d'universalité. Cela s'exprime sous forme de ce que Kant appelle l'impératif catégorique. Je le cite. « Agis de telle sorte que le motif, la raison, de ton action puisse être érigé, élevé en loi universelle. Avant d'agir, je dois me demander si mon intention peut être celle de tout le monde. Je ne peux pas ériger le vol en loi universelle, sans risquer d'être moi-même victime du vol. En revanche, je peux ériger l'intention de rendre service en loi universelle. Cette façon kantienne de penser va permettre une nouvelle fois de sauver l'Occident. Lors de la Révolution française, dont Kant est le contemporain attentif, la revendication de la liberté va donner lieu, hélas, à l'anarchie, puis à la terreur et à la dictature, pour échouer dans le despotisme napoléonien. Bref, la démocratie serait impossible, car la liberté individuelle est incompatible avec l'ordre social. Faux. Faux, pense Kant. Ma liberté n'est pas faire ce qui me plaît égoïstement, mais elle est le respect de la nécessité et de l'universalité de ce qui va être un ordre social issu de ma volonté d'agir selon une loi universelle. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté, disait Rousseau dans le contrat social. La formule pourrait tout autant être celle de Kant. Il y a malgré tout deux échecs dans cette philosophie du siècle des Lumières, philosophie kantienne. D'abord, la conscience échappe au déterminisme, d'accord, parce que c'est elle qui se l'impose comme manière de comprendre le monde. Bon. De ce fait, l'homme ne peut pas connaître le monde tel qu'il est en soi. Il ne connaît le monde qu'à travers les lunettes du déterminisme créé par la conscience. Et dans la vie morale, pareil, l'acte de produire une loi morale universelle limite la diversité humaine et aussi l'affectivité humaine. Le kantisme n'est-il pas trop rationnel et abstrait? Ben non, pas tant que ça, car quant à le souci de montrer concrètement ce qu'est la liberté, maintenant qu'il a montré la possibilité de cette liberté comme nous venons de le voir. La critique de la raison pure est le chef-d'œuvre de Kant qu'il a publié en 1781. Certains considèrent que 1781, du coup, est l'an zéro de la philosophie. Il y a un avant et un après Kant. C'est dans cet ouvrage que Kant prend l'exemple d'un menteur. Il lui reconnaît des circonstances atténuantes, c'est-à-dire, circonstances atténuantes, un déterminisme de sa vie. Méchanceté, c'est lui qui le cite, hein, méchanceté naturelle, mauvaise éducation, mauvaise fréquentation, dit-il. Mais Kant remarque qu'en fait, on blâme souvent quand même le menteur, malgré son irresponsabilité apparente du déterminisme de sa vie. Pourquoi ? Parce que on est convaincu qu'en écoutant sa raison, en écoutant sa volonté, sa conscience, il aurait pu, je cite Kant, déterminer autrement sa conduite. Le menteur, dit Kant, aurait pu commencer absolument une série d'actes différents du mensonge, commencer absolument, c'est-à-dire faire preuve de liberté, cette cause d'enchaînement d'actes nouveaux, mais liberté elle-même, cause de tout ce qu'elle décide, mais sans cause elle-même, antérieure à elle-même, comme j'ai déjà dit. Pouvoir faire autrement que suivre son déterminisme et donc commencer absolument une nouvelle conduite sont bien des manifestations concrètes de la liberté. La liberté est un acte premier, sans antériorité causale. L'animal en est incapable. Kant, l'allemand, est bien le disciple de Rousseau, le français. Dans son discours sur l'origine de l'inégalité, Rousseau dit que, je cite, « l'animal ne peut s'écarter de sa règle ». On dirait aujourd'hui « ne peut s'écarter de sa programmation génétique ». Rousseau écrit, je le cite, « c'est ainsi qu'un pigeon mourrait de faim près d'un bassin rempli des meilleures viandes et un chat mourrait sur... des tas de fruits ou de grains, quoique l'un et l'autre pût très bien se nourrir de l'aliment qu'il dédaigne. Le lion non plus ne peut pas faire autrement que dévorer la gazelle. Il n'est pas méchant, il est programmé à être prédateur. L'homme peut faire autrement, lui, et il n'y a pas de fatalité pour lui. Kant est tellement imbu de l'absolu d'une conscience libre, commencement absolu, distincte des phénomènes toujours relatifs et dépendant d'autres phénomènes, qu'il va conférer à cette conscience libre une dignité absolue. L'homme n'est pas un moyen dont on peut se servir et dont la valeur serait relative à son utilité, non. L'homme, par sa conscience, est une fin en soi, agit de telle sorte, dit Kant, que tu considères l'humanité dans ta personne comme dans celle d'autrui, toujours comme une fin, jamais comme un moyen. Alors, le christianisme a instauré la dignité sacrée de la personne humaine, à contrario de la dignité fierté ou de la dignité amour-propre, et Kant, au XVIIIe siècle, l'a conceptualisé avec rigueur.
C'était « Petit philosophe dans le vaste monde », une émission de Bernard Ribal.